Bonjour David.
Bonjour à tous. L'île de la Réunion frappée par le cyclone Garance avec des rafales de vent d'une intensité qui n'ont pas été enregistrées depuis de très nombreuses années. 6 agents de Genedis viennent de participer à une mission à Mayotte pour rétablir l'électricité après le passage dévastateur de Chido en fin d'année dernière. Le conseil municipal de Nueil-les-Aubiers était réuni mercredi soir. Les orientations budgétaires étaient notamment à l'ordre du jour. Un marathon caritatif cette fin de semaine à la chapelle Largeau en faveur des Petits Princes. L'initiative revient à l'association Sleepless Night. Devant les agressions dont sont victimes les arbitres, le district de football des Deux-Sèvres s'inquiète vivement des conséquences. Quant à la météo, du soleil et du vent, c'est le programme de notre après-midi. Le cyclone Garance a frappé ce matin la façade nord de l'île de la Réunion, secouée par de fortes pluies et d'importantes rafales de vent dépassant les 200 km par heure. L'alerte violette, le plus haut niveau de vigilance qui avait été déclenché à 9h heure locale, 6h du matin ici en France, a été levé, l'île repassant en rouge, le degré en dessous, invitant la population à rester confinée à l'exception des forces de l'ordre et des services de secours. Nous avons de nouveau joint sur place ce matin le bressuré Olivier Labourie.
La situation, c'est quand même assez... On a eu beaucoup de vent, on a eu pas mal de pluie. Donc là, on a pris le front sud du cyclone. On a eu des vents quand même assez violents. Le plus, ça a été surtout le nord, l'est et l'ouest de l'île. Je crois qu'ils ont relevé, entre 250 et 290. Ils n'avaient pas vu ça depuis une trentaine d'années, peut-être bien, ou même plus.
La mer est particulièrement démontée, j'imagine.
Oui, ils ont relevé à Saint-Denis, là, ils étaient à, je crois, 9-10 mètres. Et on a une très forte houle. C'est surtout ceux qui habitent en bord de mer. Par exemple, je crois que c'est Saint-Benoît, qui est en dessous du niveau de la mer. Donc pour eux, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'habite à 300 mètres d'altitude, donc ça va encore.
Vous-même, est-ce que vous avez vu sur la mer?
Oui. Ah oui, j'ai vu sur la mer et c'est pas joli à voir. Mais je ne prendrai pas un bateau. Personne, d'ailleurs. Et moi, je connais bien la Réunion, mais j'ai jamais vu la mer en ce moment-là.
Le bressuré Olivier Labourie, réunionnais d'adoption depuis 2018 et que nous avons donc pu joindre ce matin.
Et alors que la Réunion fait donc face à Garance, retour sur Chido. Une équipe de Genedis a en effet été en mission de solidarité à Mayotte. Genedis, qui gère le réseau de distribution d'électricité en Deux-Sèvres, a en effet envoyé une équipe de 6 agents sur l'île de Petite Terre durant 3 semaines. Avec d'autres agents issus d'entreprises similaires, ils ont formé une cohorte d'une vingtaine d'équipiers et ont participé à la remise en état du système électrique dévasté par le cyclone Chido. Une équipe qui vient en deuxième vague après un premier groupe qui avait remis sous tension les sites stratégiques. Quelques jours après son retour en métropole, Sacha Girard a bien voulu témoigner de cette expérience. Il est responsable santé et sécurité chez Genedis. Témoignage recueilli par Fabien Gazot.
Il y avait 4 cohortes à Mayotte, donc une sur Petite Terre, la nôtre, et on avait comme mission, avant de repartir, de tout réalimenter et de tout mettre en sécurité, et on a accompli notre mission, c'est-à-dire qu'on a remis tous les poids livraison et on a mis en sécurité l'intégralité du réseau de Petite Terre. C'est une mission qui, au fond de nous, était aussi humanitaire, quelque part, même si c'est très professionnel et technique. Il y avait un côté humanitaire dans le fait de réalimenter la population, parce que sans électricité, il n'y a pas non plus de télécommunications. Et puis tout ça s'organise autour des valeurs de l'entreprise de Genedis, la solidarité, les valeurs de service public. Puis on n'a pas fait que d'électricité aussi, on a distribué un petit peu de nourriture, c'est un tout.
Il y a vraiment cette dimension humaine qui a fait que vous étiez volontaire, j'imagine, comme vos collègues.
On était volontaire, on a été désigné, mais on avait tout à fait le choix de ne pas partir, donc c'est quand même sur la base du volontariat, effectivement.
Une mission effectuée dans des conditions difficiles, mais les volontaires y étaient préparés. Surpris par l'état du réseau électrique et des habitations, les agents de Genedis ont apprécié l'accueil reçu sur place.
On ne s'attendait pas à avoir des habitations et un réseau électrique dans cet état, quoi. On peut dire que c'était tout rasé, quoi. Il y a tout à refaire. Donc tout à refaire de manière provisoire, pour réalimenter. Et puis après, derrière, il y aura d'autres vagues de consolidation, de reconstruction.
Ah, vous l'avez senti comment, là, la population ?
Très accueillante et très remerciante. et puis très résiliente aussi, extrêmement résiliente, hein. Il a fallu qu'on soit aussi nous, mais c'est une population qui se reconstruit assez rapidement, ne se plaint pas. Je vais vous citer une anecdote, hein. C'est quand on va remettre un point de livraison sur un point géographique précis, on en découvre d'autres, parce que même un mois après, ces personnes ne se sont pas manifestées. C'est quand même l'aventure d'une vie, on n'a jamais vu une crise d'une telle ampleur et dans des conditions comme celle-ci, donc ça reste une expérience incroyable.
Sacha Girard, qui avec 5 autres agents de Gérédis s'est donc rendu à Mayotte, sur l'île de Petite Terre, du 22 janvier au 9 février dernier. Deux d'entre eux sont des Mahorais et sont à non point douter, ils ont à non point douter vécu cette mission encore plus intensément. Une seconde chance pour les surendettés. Un premier chiffre tout d'abord, 718. 718, c'est le nombre de dossiers déposés en 2024 devant la commission de surendettement des Deux-Sèvres. 43% des surendettés gagnent moins de 1100 euros par mois et 82% ont un patrimoine inférieur à 2000 euros. Des chiffres dévoilés en fin de semaine dernière par la directrice départementale de la Banque de France. Bérangère Blondet, au micro de l'E4B.
Pour les Deux-Sèvres, nous avons constaté une hausse du nombre de dossiers de surendettement déposés, mais malgré tout, on reste sur une tendance nettement baissière depuis 2019, où on affiche quand même un recul de près de 20%, de plus de 20% même du nombre de dossiers déposés. Sur 2024, c'est que l'endettement que l'on remarque dans les dossiers concerne essentiellement des dettes immobilières, mais il y a également des dettes à la consommation et un certain nombre également de dettes de charges courantes. 96% des cas, les dossiers sont jugés éligibles à la procédure de surendettement. Donc c'est quand même effectivement cette fameuse seconde chance qui est offerte à l'ensemble des personnes déposant un dossier.
Il est possible de saisir cette commission de surendettement qui se réunit deux fois par mois en appelant le 3414. La directrice de la Banque de France des Deux-Sèvres le répète, il ne faut pas hésiter à venir vers nos guichets.
La commission de surendettement est une commission qui permet aux particuliers de déposer donc un dossier en cas de difficulté financière. Et la commission de surendettement va leur permettre en tous les cas de trouver une solution, de pouvoir rebondir sur une situation et un moment difficile de leur vie, en se chargeant en tous les cas de trouver une solution. Le surendettement n'est pas quelque chose qui se décide, c'est souvent lié à un accident de vie, à un parcours de vie, une séparation, une perte d'un emploi par exemple. Ce sont des moments difficiles qui peuvent conduire à des situations de surendettement, effectivement.
Sachez que l'an passé, l'encours de dettes effacées dans notre département s'est élevé à 5 millions d'euros. Le conseil municipal de Noël-les-Aubiers réuni mercredi soir dernier. Comme dans toutes les communes de plus de 3500 habitants, les élus ont eu droit au rapport d'orientation budgétaire suivi d'un débat qui ne l'a pas vraiment été, hein. Le budget sera voté lors du prochain conseil en mars. Budget qui pourra s'appuyer sur des résultats 2024 qui permettent d'envisager sereinement la suite malgré un contexte national et international incertain. Le maire Serge Bouju relève notamment l'épargne brute, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les charges de fonctionnement.
On peut, avec des chiffres qui sont encore provisoires mais qui sont quasi définitifs, constater qu'il y a eu une épargne brute dégagée du budget de fonctionnement à hauteur de 1,4 million, ce qui est un bon niveau. Un endettement qui finalement a baissé puisque nous avons voulu écarter le recours à l'emprunt cet exercice 2024, donc on a un taux moyen d'endettement qui est à 1,5, donc 1,5% sur nos emprunts existants, une capacité de désendettement qui est à 4 années et demie. Ça montre que la situation financière est toujours saine et d'ailleurs l'excédent de gestion cumulé qui apparaît après l'exécution 2024 nous amène à 1,6 million d'euros. Donc tous ces éléments montrent une bonne santé financière et permettent à nouveau d'investir pour 2025.
Plus de 6 millions d'euros d'investissement seront inscrits sur 2025. Cela ne veut pas dire que tout soit réalisé, mais cela indique une volonté de poursuivre ces investissements qui ont transformé la ville ces dernières années. Un effort conséquent sera porté sur les logements sociaux, des chantiers de voirie, notamment rue de l'Atlantique. Mais l'un des projets phares des prochains mois sera l'extension en rénovation de la cantine La Girénerie. Serge Bouju.
En fait, on va augmenter la capacité d'une soixantaine de personnes pour le déjeuner, mais l'amplitude horaire à l'heure actuelle, c'est de midi à 14h pratiquement que les repas sont pris dans cette unité de restauration scolaire. Et ça pose effectivement des problèmes de gestion de l'arrivée, du départ de tous les enfants. Donc étendre un peu ces capacités, c'est intéressant. Puis c'est un bâtiment qui a 50 ans, qui a fait l'objet de réparations sommaires et qui méritait véritablement une rénovation globale. Donc c'est ce que nous allons engager.
1 100 000 euros TTC sont prévus pour ces travaux qui doivent commencer par le désamiantage en juin-juillet. Le chantier devra se dérouler alors même que la cantine recevra du public. L'association Sleepless Night lance son marathon caritatif ce soir à 18h. Une dizaine de streamers venus de toute la France se retrouvent à la chapelle Largeau pour 50 heures de live avec l'objectif de lever des fonds pour l'association Les Petits Princes qui s'évertue à réaliser les rêves d'enfants malades. Baptiste Save, le président de Sleepless Night, interrogé par Fabien Gazot.
En fait, le streaming, l'événement en lui-même, c'est un peu comme un téléthon. C'est-à-dire qu'en gros, le téléthon a lieu du coup à la télévision, sauf que nous, on est sur Internet, donc en direct, mais sur Internet. Et nous, le contenu qu'on propose, ça va être de la discussion des jeux vidéo, par exemple. On va commenter un peu ce qu'on fait. Ça peut être aussi des animations, par exemple, avec Code Rousseau, qui va venir nous faire passer le code en direct sur le plateau. Et potentiellement, bah, des soirées karaoké. Ça va être un peu de sport aussi, forcément, parce que bah, on a quelques défis qui sont prévus. Et puis, voilà, tout ça dans la bonne humeur, la bienveillance, et puis avec le sourire, bien sûr. Tout se fait en live sur Internet. On a un site Internet où vous pourrez trouver tous les lives dessus, donc sleeplessnight.fr. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Twitch avec nos pseudos, par exemple.
Sur le week-end, vous pensez pouvoir capter combien d'internautes, finalement ?
Ça dépend, c'est très variable. Ça peut être une centaine, comme ça peut être des milliers. Si on se fait raid, donc si des autres streamers qui sont pas dans l'événement nous envoient leur communauté, eh bien, on peut monter bien plus en spectateurs. Mais c'est vraiment très aléatoire et nous, on va donner le maximum justement pour être le plus visible et le plus regardé.
L'événement se vit donc derrière un écran, originaire de la chapelle Largeau. Baptiste Save, qui travaille chez Wesco à Cerisay, aimerait à l'avenir devenir streamer à part entière.
C'est venu au tout début, pendant le confinement, juste avant le début du confinement. C'était un peu comme une évidence. J'avais fait un peu de YouTube à l'époque. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, le montage, c'est bien, mais j'aimerais bien aller un peu plus sur, quelque chose de plus en direct, parce qu'il y avait un peu ce défi de se dire, animer une émission, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et du coup, l'objectif, c'était d'échanger directement avec des spectateurs en temps réel. Et le streaming est venu comme ça. Et plus ça allait dans le temps, plus j'avançais, plus en fait c'était une évidence, que c'était plus qu'une passion. Je fais ça depuis maintenant quelques années. Et c'est toujours un immense plaisir de discuter avec les communautés.
Baptiste Save, qui espère lever 10 à 15 000 euros lors de ce marathon caritatif. Le dernier, en 2022, avait permis de récolter un peu plus de 7 000 euros. Vous pouvez vous connecter sur Sleepless Light à partir de 19h ce soir, et ce, jusqu'à dimanche. Cette question, maintenant, accepteriez-vous d'être critiqué sans relâche, jugé à chaque parole, à chaque action? Eh bien, c'est avec cette interrogation qu'Hakim Mahaoudi, chargé de communication au district de football des Deux-Sèvres, par ailleurs arbitre, tire la sonnette d'alarme dans une tribune publiée sur le site du district. Le trentenaire vise les attaques dont sont régulièrement victimes les arbitres au niveau national et les conséquences aux étages inférieurs. Et même si en Deux-Sèvres, nous sommes relativement épargnés, il en appelle avant tout au respect pour que le football reste un sport plaisir. Hakim Mahaoudi.
C'est simplement un ras-le-bol général sur toutes les problématiques qui sont liées aux violences, que ce soit verbales, physiques, que tous les arbitres rencontrent. Mais c'est aussi une volonté de dire stop au football professionnel, d'arrêter de donner une image aussi exécrable du football, parce que on a toutes et tous signé notre première licence pour une seule chose, c'était de se faire plaisir sur le terrain. Mais c'est pas ce qu'aujourd'hui on retrouve, parce qu'aujourd'hui on retrouve simplement de la haine. après je prends en général, ça se passe très très bien, mais tous ces épisodes nous confirment, et tous les parents qui sont contre le football maintenant soulèvent le problème et les problématiques qui sont liées aux violences et cet esprit de famille et d'équipe qui a disparu.
Hakim Mahoudi, notamment chargé de communication au district de football des Deux-Sèvres, l'entretien que ce dernier nous a accordé sera à retrouver plus en longueur dimanche dans SMD. Le concert Gold part en live, prévu le 5 avril à Bocquepol-Bressuire dans le cadre de la Foire Exposition, est annulé, a indiqué hier après-midi BBA, Bressuire Bocage Animation. Pour toute information concernant le remboursement des billets, vous devez contacter votre point de vente initial ou le site de réservation en ligne. Le syndicat du Val-de-Loire va procéder au renouvellement de la canalisation d'eau potable boulevard Saint-Porcher à Bressuire, canalisation posée en 1965 et qui a connu de très nombreuses casses au cours des dernières années, entraînant des désagréments pour les abonnés du secteur avec des coupures d'eau de plusieurs heures ainsi que des pertes en eau importantes. Le renouvellement de cette conduite est programmé à compter du mois de juin prochain, mais auparavant il est nécessaire de procéder à l'abattage des arbres existants du côté père de ce boulevard. Ces travaux seront effectués à partir de mardi prochain pendant les vacances scolaires, période moins chargée au niveau de la circulation. Bien entendu, à l'issue des travaux de renouvellement, un réaménagement paysager sera effectué, précise le SVL. L'axe Niort partenait de nouveau coupé hier soir. Un accident de la circulation s'est en effet produit vers 19h à hauteur de la commune de Saint-Pardoux-Soutier. Le chauffeur d'un poids lourd transportant de l'épicerie fine a perdu le contrôle de son ensemble routier qui s'est retrouvé couché sur le flanc. La cargaison s'est retrouvée sur la chaussée, mais surtout du gasoil s'est répandu sur la route, menaçant un cours d'eau à proximité. Les sapeurs-pompiers se sont évertués à mettre en place des dispositifs filtrants pour contenir toute éventuelle pollution. Le temps des opérations, la circulation a été totalement interrompue sur cette partie de la départementale 743. Quant au chauffeur, légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital.